Le dispensaire de Pony-Rouyn reste fermé aujourd'hui. Décision du personnel soignant après de nouvelles exactions sur les véhicules. La collecte a été satisfaisante. Lisez et adressez ce matin un premier bilan du travail des agents recenseurs en attendant la publication des premiers chiffres. Une aventure scientifique et humaine, 8 mois en solitaire sur un atoll des Tuamotu. Mathieu Juncker est venu ce matin nous raconter son aventure. En métropole, l'auteur des coups de couteau mortel contre une surveillante d'un collège de l'Aisne avait probablement prémédité son geste. Il est toujours en garde à vue. En sport, la groupe Amareil s'approche, les bateaux sont tous sur le ponton de départ et le village sera inauguré cet après-midi. Et puis la disparition de Jacky Bégaud à l'âge de 92 ans, il a été l'un des piliers du tennis calédonien dans les années 60-70. Maintenir la commande publique pour soutenir le secteur du BTP, ce sera le thème ce midi des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Alors que la province sud annonce avoir mobilisé 12 milliards de francs, dont 6,5 milliards injectés directement via des appels d'offres. Nous en parlerons avec Jean-Pierre Brément, le directeur de la DAEM à la province sud, qui synchronise tous ces travaux, avec Christophe Dautieux de l'entreprise ACTB, Stéphane Lutringer de l'entreprise TCE, Thomas André de l'entreprise ATEP, présent également Éric Lafitte de l'entreprise Arbé, élu il y a quelques jours président de la Fédération calédonienne du BTP. Des Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu à retrouver dès la fin de ce journal. Le dispensaire de Pony-Rouyn va donc rester fermé toute la journée. La décision a été prise par le personnel soignant après de nouvelles exactions subies ces derniers jours, Léo Fichou.
Oui, le CMS a effectivement été la cible de malfaiteurs. Un véhicule utilisé pour les tournées médicales a été volé avant d'être retrouvé incendié près du stade municipal quelques heures plus tard. Notre véhicule a été dégradé, vitres brisées, batterie volée. Que vont donc devenir les malades en tribu qui ne peuvent pas se déplacer? C'est la question posée sur les réseaux sociaux par le personnel soignant qui a décidé de mettre en place un débrayage ce jeudi. Pas de soins, pas de prise de sang, pas de consultation non plus. Le dispensaire est fermé. Une plainte a été déposée, une enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Pony-Rouyn pour retrouver les auteurs des faits. Les activités du dispensaire reprendront normalement demain vendredi.
Autre intervention des forces de l'ordre, toujours à Pony-Rouyn. Un homme atteint de schizophrénie menaçait sa famille avec un fusil. L'homme en état de crise s'est finalement retranché chez lui. La compagnie de gendarmerie de Pointe-d'Imy ainsi que le GIGN et un hélicoptère ont été mobilisés pour l'interpeller. Un suspect arrêté mardi soir après les incendies de ces derniers jours à l'école catholique de Saint-Louis. Un homme d'une vingtaine d'années, originaire de la tribu, est soupçonné d'avoir mis le feu à l'établissement scolaire. Il faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Rappelons que lundi, une pièce de stockage avait été incendiée. Mardi, ce sont les salles administratives qui ont été détruites par les flammes avant qu'un troisième incendie ne soit déclaré mardi soir. Et puis les évasades s'enchaînent en ce mois de juin. Dernière évacuation en date hier soir vers minuit. Un puma des forces armées de Nouvelle-Calédonie a été de nouveau déclenché pour récupérer 2 personnes en urgence vitale sur l'IFU. Des patients hospitalisés au dispensaire de Wé. 1h30 seulement après s'être posé à l'IFU, l'équipage déposait les patients et l'équipe médicale embarquée à la base aérienne 186 de Tontouta.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier et 85% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne comprennent pas que 40 personnes puissent être expulsées et exclues de leur tribu à tout haut. Ils sont 15% à dire à l'inverse qu'ils comprennent ces expulsions. Voici notre question du jour. Partagez-vous l'analyse d'Emmanuel Macron quand il déclare que ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums? Si vous partagez cette analyse, vous tapez 1. Si vous ne la partagez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Lisez fait le point sur le recensement. Pendant 6 semaines, 930 agents recenseurs ont sillonné la Calédonie pour recenser la population, Nicolas Legrand.
Oui, une opération qui a lieu tous les 5 ans pour connaître la population calédonienne, mais aussi récolter d'autres données statistiques. Et même si elle a été rallongée d'une semaine en raison des difficultés à recenser certains secteurs, la collecte a été un succès, selon Jean-Philippe Groutier, chargé de mission du recensement à l'INSEE.
Un très grand merci à l'ensemble de la population. On a l'immense majorité des gens qui ont accueilli l'agent censeur et qui ont répondu. On avait quelques craintes au départ face à la méfiance actuellement que les gens pouvaient avoir d'ouvrir leurs portes. Peut-être ce qu'on peut signaler, c'est que ça a été un petit peu plus long pour convaincre les gens de répondre. Et puis la méfiance s'est traduite quand même par le fait que assez souvent l'agent censeur, il est resté sur le pas de la porte. Et à l'arrivée, la quasi-totalité des habitants ont répondu.
Et en tout, 110 000 logements ont donc été recensés. Dans le détail, 92% des résidences principales ont répondu au questionnaire. 4% ont été recensés en donnant uniquement le nombre d'habitants du logement, mais sans répondre aux questions annexes. Et 4% n'ont pas été recensés. Une collecte quasiment exhaustive, en tout cas largement supérieure à ce qui est pratiqué en métropole. On retrouve Jean-Philippe Groutier.
En métropole, 40% de population observée dans les grandes communes, c'est largement suffisant pour avoir une très bonne précision. Mais en Nouvelle-Calédonie, on est bien au-delà de ça, puisqu'on aura... Donc la Nouvelle-Calédonie aura des chiffres, notamment sur l'ensemble des données statistiques, plutôt plus fiables que ce à quoi on est habitué en métropole.
Rappelez-nous un petit peu la méthode pour les fameux 4% de logements qui n'ont pas été recensés. Vous allez, de manière statistique, établir le nombre d'habitants.
Ces 4% ne seront pas oubliés, je dirais, dans la population. On va... à partir d'une analyse de là où ils sont, du type d'habitat, etc., considérer qu'il y a en moyenne un nombre d'habitants par logement qui correspondra au logement comparable dans la même zone, etc. Donc on va bien rajouter, si on peut dire, des habitants dans ces logements.
Et durant les semaines qui viennent, 8 opérateurs vont travailler pour établir le chiffre global de la population par commune, des données essentielles, notamment pour établir le fameux FIP, le Fonds intercommunal de péréquation qui détermine les dotations aux mairies. Et jusqu'à la fin de l'année, les questionnaires remplis lors du recensement seront scannés et pris en compte, et les premières études complètes sortiront en 2026.
L'objectif, c'est que d'ici un mois, on puisse communiquer ce qu'on appelle les populations de référence, c'est-à-dire les populations de chacune des communes, mais la population, juste le chiffre de population avec les différentes catégories de population légales. Et puis, d'ici début 2026, de fournir et de mettre en ligne l'ensemble des informations. Le recensement est là pour essayer d'éclairer un certain nombre de débats qui ont lieu dans la société calédonienne. C'est vrai qu'on pourra mieux voir, suivant l'évolution de la population par rapport à 2019, voire 2014, quelle est l'importance du solde migratoire, mais sur l'ensemble de la période. Le recensement ne dira rien, au moins à ce stade, sur ce qui s'est passé entre, 2019 et 2024 et 2024-2025.
Et je rappelle que cette opération de recensement a été entièrement financée par l'État. L'INSEE a versé 340 millions de francs à l'ISEE pour financer le recrutement des agents recenseurs et le matériel. À cela s'ajoute l'argent qui a servi notamment pour financer le séjour des 10 personnes de l'INSEE qui sont actuellement sur le territoire.
11h38, l'heure d'une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le jeudi du centre-ville aux couleurs de Wallis et Futuna est de retour ce jeudi 12 juin sur la place des Cocotiers. Cette année, les associations mettront à l'honneur le patrimoine et la culture de l'archipel. Retrouvez plus de 70 exposants qui vous feront découvrir leurs spécialités culinaires et l'artisanat traditionnel. Danse, chant, dégustation de plats typiques feront également partie du programme. Rendez-vous jeudi 12 juin de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Comment devenir le meilleur de tous les temps? En un mot, le GOAT des soirées cinéma. Étape 1, profitez de l'offre du moment Canal+, avec les plateformes Apple TV+, Max, Paramount+, et bien sûr, les 10 chaînes Canal+, incluses, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. Étape 2, à vous le cinéma ultra récent, le sport en direct et les séries exclusives sur votre télé, votre mobile ou votre tablette. Étape 3, plus aucun doute, vous êtes le GOAT des soirées cinéma. À vous le streaming Canal+, Apple TV+, Max et Paramount+, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. GOAT, le meilleur de tous les temps. Offre avec abonnement mensuel au tarif de 4000 francs par mois, valable jusqu'au 31 juillet et soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com ou en Canal+ Store.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie et les produits de Wallis et Futuna vont faire toute la journée le bonheur des visiteurs qui vont pouvoir arpenter les stands des 70 exposants présents place des Cocotiers. Ce jeudi du centre-ville spécial Wallis et Futuna est ouvert jusqu'à 19h ce soir et il a débuté après une cérémonie d'ouverture en présence de Michel Fong, adjoint au maire de Nouméa en charge notamment de la dynamisation du centre-ville.
Ça fait partie de la volonté de la mairie d'essayer d'animer le centre-ville parce que effectivement, en ce moment, sur le plan économique, tout va mal. Et je pense que ce sont ces genres de manifestations qui permettent un peu de redonner un peu du moral à la population, toute ethnie confondue. Même si c'est le jeudi de Wallis et Futuna, mais les Wallisiens sont quand même la troisième communauté la plus représentée sur le territoire. Donc l'artisanat ainsi que la gastronomie wallisienne est quand même bien connue. Hein. Tout le monde connaît le soup waka ou le faikai. Donc pour ceux qui aiment ça, ben, je vous invite à venir aujourd'hui sur la place de la Manne parce que vous allez pouvoir vous régaler.
Voilà, les exposants proposent en effet des plats, mais aussi de l'artisanat traditionnel wallisien et futunien.
Au jeudi de Wallis et Futuna, vous allez trouver de l'artisanat, de la restauration, différents plats culinaires concernant l'artisanat. Donc vous allez trouver, il y a un groupe de Futuna qui sont là actuellement là, qui sont venus exprès pour exposer au jeudi de Wallis et Futuna. Donc il y a les portichéquiers, il y a le tapas, l'huile de coco et puis différents plats.
Il y a des tenues traditionnelles comme les taovala, on a des colliers faits de coquillages, des graines de tamano, des sculptures, des tanoas, des tapakis pour les danses.
On a fait un four traditionnel, on vend des plats de cochon cuits au four traditionnel accompagnés de taro. Après on a des loetini, c'est fait avec du tini, des boîtes de viande qui viennent de Wallis, avec des oignons, des chouchines. Et on a des vaihupuaka, ça c'est à base de cochon au lait de coco avec des chouchines et des oignons. Avec des faikai talo, c'est à base de taro. Et on a aussi des lufakafu, ça c'est à base de tapioca. Ça nous fait plaisir de venir ici exposer, faire montrer notre culture, nos traditions, mais surtout nos plats à nous, faire savoir notre savoir-faire. Et puis montrer aux gens que voilà, nous on a une façon de faire, de façon de cuisiner, à nous, chez nous les Wallisiens et Futuniens.
Voilà, bon appétit si vous pouvez en profiter. Notez que ces jeudis du centre-ville spécial Wallis et Futuna se poursuivent jusqu'à 19h. 240 jours en immersion sur un atoll isolé de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. C'est l'expérience scientifique et humaine inédite qu'est venu nous raconter Mathieu Juncker, qui était notre invité du matin à 7h30. Pendant 8 mois, il a vécu en autonomie complète en étant complètement dépendant des ressources de l'atoll. Cette expérience lui a permis d'observer de près les bouleversements écologiques à l'œuvre dans cette partie du Pacifique Sud, notamment sur l'état de santé du récif corallien. Mais il s'est aussi consacré à l'observation du titi, un oiseau endémique.
C'est une espèce assez extraordinaire qui est endémique des Tuamotu, qui n'existe nulle part ailleurs que là-bas, qui était très abondante par le passé et qui a vu son aire de répartition se restreindre au fur et à mesure des activités humaines, et notamment de l'introduction de rats. Les rats sont introduits, pullulent en fait, et sont des prédateurs des oiseaux en général, de la faune, toute la faune en fait, hein, de crabes en passant, mais également de la végétation, et aussi du fameux titi que j'ai choisi parce que c'est une espèce emblématique dans le sens où en fait, là où est le titi, l'atoll et le motu, l'îlot se portent bien, là où pareil, c'est qu'on se pose des vraies questions sur l'état du milieu. Et donc ce titi, malheureusement, j'ai observé en fait que ses effectifs étaient en 2024 un tiers de ce qu'ils étaient 20 ans auparavant. Alors c'est une espèce qui est protégée par le code d'environnement de la Polynésie française. Et donc là encore, en fait, je me suis posé la question en fait de notre impact, même des gens comme ça qui viennent de temps en temps. Donc la réponse, elle est quand même, je voudrais envoyer un message en fait positif aux auditeurs, c'est que il est possible de dératiser des îlots, il est possible en fait de replanter de la végétation en fait autochtone, la végétation qui vit là-bas en fait. Et cette végétation maintient ces îlots face à l'érosion. Donc ces actions locales ont pleinement du sens par rapport à un contexte de changement global.
Ce scientifique qui est biologiste marin de formation a beaucoup appris lors de cette immersion. Et il a notamment découvert que beaucoup de choses qu'il pensait savoir étaient fausses.
Parce qu'on arrive, même quand on arrive avec une certaine humilité, ce que je pensais que c'était mon cas en fait, mais avec justement des savoirs, notamment scientifiques sur l'écologie de certains oiseaux ou même du crabe de cocotier qu'on connaît bien ici aux îles Loyautés, aussi sur la Grande Terre d'ailleurs. Et moi-même, j'ai écrit des bouquins sur la faune du Pacifique et de m'apercevoir en fait que j'ai dit des bêtises et que des publications de haut niveau scientifique pouvaient être mises en cause par une observation qui, elle, est permanente lorsqu'on reste, lorsqu'on vit avec cette faune-là. Et j'étais vraiment, je sais pas si on peut dire de connaître, on va dire une certaine communion avec elle, on s'aperçoit que, eh bien non, c'est pas le matin, mais c'est le soir que les œufs sont pondus, que cette espèce qu'on croyait complètement terrestre, eh bien, le crabe cocotier, je l'ai retrouvé effectivement en mer, et je parle bien de, non pas de femelles qui pondent des œufs, mais d'adultes mâles. Et en fait, il y a un tas de, on va dire, de grandes vérités a priori, des généralités en fait, sauf que la nature, en fait, c'est un cumul en fait d'exceptions. Et donc, c'est intéressant de redécouvrir la complexité de ce monde sauvage.
Mais au-delà de ces observations scientifiques, cette expédition a aussi été une expérience humaine pour Mathieu Juncker, avec un retour au monde qu'il qualifie d'étonnant.
Il est étonnant le retour, on va dire. À la fois, je suis tellement ravi de nous retrouver ma famille, les amis et des gens, en fait. On souffre. J'ai souffert à la solitude, en fait. Alors, c'est pas une souffrance permanente, mais elle prend au dépourvu, elle est poignante, elle est vraiment déchirante.
Coup de poignard dans le ventre, hein, vous dites.
Oui, c'est ça, en fait. Hein, on sent vraiment se vider de son énergie, en fait. Et j'avais jamais vécu un état pareil. J'étais déjà parti 10 jours seul, etc. Enfin, là, sur 240 jours, c'est pas la même aventure. Voilà. Donc, on s'aperçoit à quel point on est vulnérable et faible lorsqu'on est seul. Et des risques que je suis capable de prendre, notamment ici en Calédonie en allant explorer des récifs éloignés avec des amis. Et bien en fait là-bas, en fait, on n'ose plus faire ça, ou pas dans les mêmes conditions. En fait, on voit un peu tous les enjeux qu'il y a et le confort qu'on a en fait à vivre en société.
Mathieu Juncker va raconter cette expérience dans un documentaire, mais aussi un livre. On peut signaler que son immersion a été interrompue pendant un mois et demi en raison des violences insurrectionnelles de mai 2024. Dans l'impossibilité de joindre ses proches par téléphone satellite, Mathieu Juncker avait quitté l'atoll pour les retrouver avant d'y retourner pour achever sa mission. Une interview qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Le salon Vivatech, la grand-messe des startups et de l'innovation, a ouvert ses portes à Paris. 8 entreprises calédoniennes y participent cette année. Elles ont été sélectionnées en début d'année par le gouvernement, sous l'égide de Christopher Gigès, notamment en charge du numérique, Nicolas.
Oui, et pour la première fois, cette délégation comprend des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Un rendez-vous qu'il ne fallait surtout pas manquer, a expliqué Christopher Gigès à notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Je crois que c'était important de maintenir le stand malgré tout ce qui s'est passé, de montrer que c'est pas parce qu'il y en a qui veulent détruire qu'on ne peut pas avoir des gens qui continuent d'avancer et qui veulent continuer à construire la Nouvelle-Calédonie. Et donc ça fait 3 ans et on est très fiers d'être là depuis 3 ans. Contrairement à il y a 3 ans, on avait des startups qui étaient vraiment en phase d'amorçage. Aujourd'hui, on est vraiment sur des startups qui sont en capacité de s'exporter, en capacité d'aller chercher des clients internationaux. Et donc on voit la grande différence cette année, c'est d'avoir des startups qui sont tournées sur l'intelligence artificielle, et ce qui est un peu le thème du salon cette année.
La société Visioun fait partie des 8 sociétés calédoniennes présentes à Vivatech. Elle installe des caméras devant les aquariums pour renseigner les visiteurs sur les poissons qu'ils viennent d'admirer. Visioun a décroché un beau contrat, celui de Nausicaa de Boulogne-sur-Mer, le plus grand aquarium d'Europe. Mais c'est d'abord à l'aquarium des lagons de Nouméa que le concept avait pris forme, explique Robin Quéré, l'un des responsables de cette start-up.
On peut voir sur le poisson perroquet par exemple. Donc si on appuie sur le poisson perroquet, on va voir son nom, mais aussi son nom latin. Et une petite anecdote en dessous, en fait, son alimentation, il a un petit bec d'oiseau qui lui permet de gratter les algues, les rochers, les coraux. Et en les mangeant, il rejette ensuite des débris sous forme de sable. Donc il produit du sable et en fait, il produit jusqu'à 100 kg de sable par an. Le principal client aujourd'hui, c'est en France, donc à Boulogne-sur-Mer, à Nausicaa, qui est un des plus grands aquariums d'Europe, où on a installé notre caméra et l'application fonctionne depuis maintenant plus d'un an. Mais on est en discussion avec de nombreux aquariums de France et du monde entier même. Il y a plusieurs milliers de clics par jour parce que les gens, ils aiment avoir la borne et ils aiment appuyer pour essayer de découvrir et d'en apprendre plus sur les poissons qu'ils voient dans le bassin et les requins qu'ils voient dans le bassin.
Et l'objectif à long terme de la délégation, ce sera d'établir des partenariats internationaux et de promouvoir la marque New Caledonian Tech. Rappelons que Vivatech rassemble chaque année plus de 13 500 startups, 150 000 visiteurs et des milliers d'investisseurs et de décideurs du secteur technologique.
L'actualité dans la région avec cette expérimentation dans le territoire du nord de l'Australie. Ses habitants vont être autorisés à se servir légalement d'un pulvérisateur au poivre pour leur défense. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
La chef de gouvernement du territoire du nord, Lea Finocchiaro, a indiqué que cette initiative, je la cite, « va améliorer la sécurité des habitants du territoire et va leur offrir la possibilité de se protéger si nécessaire ». À partir de septembre et pour une période d'essai de 12 mois, ils seront donc autorisés à se munir d'un pulvérisateur de défense personnelle et à en faire usage dans des conditions légales très strictes. « Nous renforçons les effectifs de la police », a déclaré Lea Finocchiaro, « mais les habitants du territoire doivent également disposer d'outils légaux pour se protéger ». Les territoriens respectueux des lois et âgés de plus de 18 ans seront autorisés à acheter légalement ces pulvérisateurs auprès des armuriers agréés, a-t-elle précisé. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On va marquer une nouvelle pause dans ce journal, 11h50, et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et notamment la mort de cette surveillance de 31 ans poignardée devant un établissement scolaire.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
nouveau stock de deck cohue chez All Woods, de 1,80 m à 5,70 m. Et jusqu'au 30 juin, profitez des Happy Weekends. Moins 15% pour les particuliers, du vendredi 13h au samedi 11h30. All Woods, 22 rue Descartes à Ducos ou sur Facebook.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
La mort d'une surveillante de 31 ans, Mélanie, devant un lycée de l'Aisne, poignardée à mort par un élève de 14 ans, suscite toujours beaucoup d'émotions. Le drame a eu lieu lors d'une banale fouille de sacs devant l'établissement scolaire en présence des gendarmes. Le jeune meurtrier est en garde à vue et lorsqu'il est arrivé ce jour-là devant son établissement scolaire, il savait qu'il allait commettre un acte grave, a indiqué le procureur de la République de Chaumont, Denis Devalois.
Il a indiqué aux enquêteurs avoir voulu s'en prendre à une surveillante, sans cibler en particulier l'une d'entre elles. Il indique avoir agi ainsi parce qu'il ne supportait plus le comportement des surveillantes en général, qui auraient eu, selon lui, une attitude différente selon les élèves.
La garde à vue du jeune meurtrier a été prolongée et à la suite de ses déclarations, la question de la préméditation se pose puisqu'il avait pris un couteau chez lui avec une lame de 20 cm pour se rendre dans son établissement où il voulait faire, a-t-il dit, le plus de dégâts possible. Un garçon qui ne présente aucun trouble mental et qui est apparu très détaché, a souligné le procureur.
Il n'exprime pas de regrets. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Ce jeune homme apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, à laquelle il ne semble pas attacher une importance particulière.
Le meurtre de cette surveillante ne fait qu'accroître l'inquiétude du monde enseignant. Plusieurs rassemblements et manifestations ont été organisés par les organisations syndicales qui réclament des mesures de protection. Le reportage à Lyon de Noémie Loisel pour Europe 1.
Devant l'hôtel de ville, des dizaines d'enseignants et personnels éducatifs observent une minute de silence pour rendre hommage à leurs collègues, comme Aïva et Frédéric, assistants d'éducation depuis plusieurs années dans des collèges à Lyon.
J'ai beaucoup d'émotions en fait. Je suis bouleversée, je suis choquée, je suis en colère aussi.
On se dit quand même que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous.
Au-delà de l'émotion, tous attendent des réponses et appellent à une véritable réflexion de fond sur les violences scolaires. Rinda Layounès est secrétaire académique du SNES-FSU.
On a eu la mort de Samuel Paty, la mort de Dominique Bernard, maintenant la mort de notre collègue AED. On assiste à des gesticulations politiques. Il faut faire un travail de fond sérieux sur cette question des violences scolaires, sans polémique politique.
La réponse sécuritaire ne suffit pas, insiste l'enseignante de français. Il faut placer la prévention au cœur des politiques éducatives.
On a vraiment besoin de moyens, parce qu'il y a de moins en moins d'adultes pour encadrer la jeunesse. On manque d'infirmières et d'infirmiers, on manque d'assistants sociaux, d'AED, on manque de CPE, on manque même maintenant de chefs d'établissement.
Selon le syndicat en France, on compte un psychologue de l'éducation nationale pour 1600 élèves. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1.
Et notez qu'une minute de silence sera respectée dans tous les établissements scolaires. Ce sera à midi, c'est-à-dire à 21h ce soir, heure de Nouméa. Et c'est dans ce contexte que le ministre de la Santé présente une trentaine de mesures pour mieux soigner les troubles psychiques. La santé mentale est grande cause nationale pour 2025. Yannick Noder propose notamment de recruter des professionnels de santé dans ce domaine. Yasmina Katou.
Le ministère de la Santé souhaite repérer de manière précoce les troubles psychiatriques chez les enfants. Et pour cela, il y aura dans chaque collège et lycée des personnels référents en santé mentale dès la rentrée scolaire de septembre. Des référents qui ne seront pas forcément des professionnels de santé. Un CPE, un prof, un surveillant pourra le devenir après avoir suivi une formation. Par ailleurs, des financements supplémentaires seront réservés aux centres médicaux qui proposent des créneaux d'urgence sans rendez-vous. Aussi, lors d'une crise, les personnes en détresse qui appellent le 15, donc le SAMU, pourront avoir au bout du fil un professionnel de la psychiatrie. Plutôt que de les envoyer aux urgences, il s'agit de les réorienter vers la bonne structure. Enfin, le dernier axe du plan repose sur le renforcement de la formation avec la mise en place d'un module de psychiatrie dans toutes les facultés de médecine. L'objectif est de passer de 500 internes formés chaque année à plus de 600 d'ici 2 ans.
Dans le reste de l'actualité, les 4 Français qui sont à bord du Madeleine, ce voilier qui a tenté de forcer le blocus israélien sur Gaza, ont refusé de quitter Israël. Ils sont donc emprisonnés le temps qu'un tribunal prononce leur expulsion. Une situation dénoncée par la France insoumise qui s'est empressée de s'en prendre au Premier ministre à l'Assemblée nationale par la voix de Mathilde Panot lors des questions au gouvernement.
20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple ? Pourquoi ne faites-vous rien pour faire respecter notre pays et le droit international ?
Et dans sa réponse, François Bayrou a dénoncé une instrumentalisation.
Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu les faits qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter.
François Bayrou lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Mohamed Amra, extrait de sa cellule de haute sécurité de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, pour être entendu à Paris par un juge du tribunal judiciaire. Le narcotrafiquant n'a quasiment pas ouvert la bouche pour cette audition qui a nécessité un déploiement de sécurité particulièrement important. Jean-Baptiste Marty.
L'escorte classée 4 sur une échelle maximum de 5 a mobilisé de nombreux moyens, notamment un hélicoptère, un trajet d'environ 30 à 40 minutes pour faire les 250 km depuis sa prison de Condé-sur-Sarthe jusqu'à Villacoublay, là où il a atterri. Il faut compter environ 1500 euros l'heure de vol selon le dernier bilan de la Cour des comptes, soit au moins 3000 euros l'aller-retour. Un trajet durant lequel il était équipé d'un casque anti-bruit et d'un bandeau sur les yeux pour l'empêcher de mémoriser le trajet. Et à ce coup, il faut ajouter également celui du dispositif impressionnant et notamment le GIGN réquisitionné, des dizaines de membres et des véhicules blindés. Au total, ce transfert aurait coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros et cela pour ne rien en ressortir. Pendant 3 heures, Mohamed Amra a gardé le silence face au juge en charge des investigations. Pour son avocat, le manque de confidentialité de cet entretien avec des surveillants derrière les portes justifie cette posture. Une sortie donc qui n'a pas servi à grand chose, le tout financé par le budget de l'État.
Il est 11h57, une nouvelle pause à suivre dans un instant, la page sport, et on se retrouvera ensuite pour les jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour la fête des pères, offrez un cadeau qui dure. Une ceinture garantie 10 ans, c'est seulement au coin du cuir. Un chapeau cowboy, un portefeuille, une sacoche holster. Et le coin du cuir, ben c'est ça aussi.
Les 1000 premiers jours de vie, c'est là que tout se joue. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lance un appel à projets pour soutenir les futurs et jeunes parents, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Vous êtes une association, une personne ou une société ? Vous avez un projet innovant pour accompagner les parents en situation de vulnérabilité pendant cette période clé de la vie ? Les dossiers doivent être déposés au plus tard, le 27 juin 2025. Plus d'informations sur www.gouv.nc. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer avec le cyclisme. Et Remco Evenepoel a remporté cette nuit la 4e étape du Critérium du Dauphiné. Le Belge a remporté le contre-la-montre devant Jonas Vingegaard et Matteo Jurgensen. Grâce à cette victoire, il endosse le maillot de leader avec 4 secondes d'avance sur Florian Lipovits et 9 sur Ivan Romeo. Ce soir, 5e étape de ce Critérium du Dauphiné. C'est une étape de transition avant la montagne. Elle sera longue de 183 km entre Saint-Priest et Mâcon. Le départ sera donné à 21h55 heure de Nouméa. Sur le territoire maintenant, J-3 avant la New Caledonia Groupama Race. Hier en fin d'après-midi, les 23 voiliers qui prendront part à la compétition ont pris la mer pour une régate au coucher du soleil, Léo.
Oui, une régate en vue du départ qui est prévu dimanche, selon les conditions météo, entre 10h et 10h30. Cette parade entre la baie des Citrons et la rade du CNC marque le début des festivités autour de cette course tant attendue, l'occasion pour les équipages de se rencontrer, de tester les bateaux, mais aussi de faire monter l'ambiance. Parmi les 23 voiliers engagés, celui de l'équipage Défi des Filles, Céline Kaltenmark, revient sur la création de ce groupe et leur motivation.
On se connaît toutes, on a une bande de copines, donc on se connaît très très bien et on est hyper contentes de prendre le départ ensemble et on va bien s'amuser. C'est Sandrine Gravier et Christine Gaillard qui ont créé l'association il y a plus d'une dizaine d'années maintenant pour promouvoir la voile au féminin. Voilà, nous on est super fiers de faire partie de l'association et puis de naviguer entre filles parce que c'est quand même toujours un petit peu différent et de montrer à d'autres que c'est possible d'avoir que des filles sur un bateau. On vise toujours la première place, c'est quand même une course, sinon on ferait de la croisière. Mais après on reste lucide et le principal c'est de faire le mieux qu'on peut.
La Groupama Race, ce n'est pas seulement la course, c'est aussi une grande fête autour de la voile. Gaëlle, responsable communication de l'événement, souligne le succès de la régate et présente le village, point central des animations.
On est super contents parce que c'était magnifique. On a eu un sunset incroyable sur la rade et on a pu les voir arriver tous. C'était superbe. Ils étaient sous spi en plus, donc c'était avec plein de couleurs. C'était très joli. Donc là, on est revenu à la base, à la mère patrie, comme on dit, puisqu'on est au CNC qui est l'un des deux organisateurs de la Groupama Race. Et puis, on a vraiment misé sur le village pour l'accueil du public. On est aussi en partenariat avec le Nautical juste à côté. Donc en fait, ça fait vraiment deux gros villages ensemble qui vont réunir pas mal de monde qui sont pas forcément intéressés dans les voiles, mais qui pourraient justement être hyper heureux de voir des magnifiques bateaux passer et parader devant eux. Donc en fait, l'idée l'idée, c'est d'attirer un nouveau public, en plus du public qu'on a déjà autour de la voile.
Le village qui proposera des animations nautiques, concerts, stands et rencontres avec les équipages. Ils rythmeront les journées avant le départ de la course qui est prévue dimanche.
Et puis la grande famille du tennis calédonien est en deuil. On a en effet appris hier la mort de Jacky Bégaud à l'âge de 92 ans.
Jacky Bégaud évoluait sous les couleurs de la section tennis de l'Olympique de Nouméa dans les années 60, mais aussi avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Il avait notamment participé à plusieurs éditions des Jeux du Pacifique entre 1963 et 1975. Sur les courses, c'était un homme respecté, admiré notamment par Gérard Winter, ancien CTR à la Ligue calédonienne de tennis. Il est désormais conseiller à la direction de la jeunesse et des sports du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Surtout, nous étions très jeunes et Jacky, c'était un petit peu notre idole, en particulier sur les épreuves de double. Il était très athlétique, il bougeait beaucoup au filet et il avait une volée toujours remarquable. Donc nous, jeunes joueurs, je pense à Jean-Yves Desmazures, moi-même, voilà, on était vraiment fans de ce joueur qui nous faisait vraiment vibrer quand on le voyait jouer en double sur les courts du Mont Coffin en particulier, puisqu'il y a à l'époque, il y avait un peu que ces terrains-là. Pour moi, c'est mes premiers jeux en 75 où Jacky avait des responsabilités dans le monde du tennis, les jeux de Guam, et voilà, c'était un de nos dirigeants et qui nous conseillait et pour lequel on avait beaucoup de respect.
Jacky Bégaud avait aussi porté les couleurs de la sélection calédonienne de football. C'était dans les années 50. Il s'est éteint hier au CHS où il était pris en charge des suites d'une longue maladie.